Chapitre 9. Cesse de faire l'enfant et tiens-toi tranquille, s'écria Richard.
Ne m'en mets pas dans les yeux,
implora Léo Le Roc. Ne t'en fais pas, tes yeux ne risquent rien.
Pourquoi suis-je passé le premier?
Parce que tu es mon ailier droit. Déconcerté par cette réponse saugrenue, Le Roc ne trouva rien à objecter.
Tu crois que ça nous aidera à gagner?
Demanda-t-il en secouant la tête pour échapper à la prise de Richard. J'en suis sûr, si nous sommes à la hauteur par ailleurs. Ces peintures n'amélioreront pas notre façon de jouer, mais elles aideront à nous forger une réputation. Pour être craint de ses adversaires, gagner ne suffit pas, il faut un petit plus. Si nous l'avons, les autres équipes dormiront mal la veille des rencontres.
Léo, un peu de courage,
lança un autre joueur de plus en plus agacé. Tous les membres de l'équipe s'impatientaient en attendant leur tour. La plupart avaient été convaincus par les arguments de Ruben, mais ça ne leur rendait pas la corvée plus agréable.
« C'est bon, continue !»
soupira Le Roc, vaincu par le nombre. Richard se remit à l'ouvrage. Du coin de l'œil, il étudia les gardes qui braquaient leurs arcs sur le petit groupe. Les prisonniers ayant été libérés de leurs chaînes, des archers les surveillaient en permanence en attendant qu'on les conduise sur le terrain de jeu. Dès que Richard et les autres captifs n'étaient plus entravés, Karg prenait un incroyable luxe de précaution. Non sans fierté, Richard avait noté que la plupart des flèches étaient braquées sur lui. Se concentrant de nouveau sur Le Roc, il lui posa une main sur le sommet du crâne pour le forcer à se tenir tranquille. Richard avait longtemps réfléchi à ce qu'il peindrait sur le visage de ses équipiers. Au début, il avait pensé laisser chaque joueur se maquiller comme il l'entendait. Très vite, il avait compris que c'était une mauvaise idée. L'enjeu était bien trop important pour qu'il se fie au goût et à la fantaisie de chacun. De plus, tous les gars voulaient qu'il s'en charge. Il était le marqueur et l'idée venait de lui. Si pas mal de joueurs s'étaient montrés un peu réticents, ça venait sans doute de l'angoisse d'être ridicule. En confiant la délicate mission à leur attaquant de pointe, ils se déchargeaient de toute responsabilité. Richard plongea l'index dans son petit pot de peinture rouge. Karg lui avait fourni un pinceau, mais il ne l'utilisait pas car il désirait avoir un contact direct avec sa création. Au cours de sa réflexion, Richard était arrivé à deux conclusions majeures. Pour commencer, les peintures de guerre devaient dissimuler le visage de leur porteur. Après tout, c'était leur fonction première. Ensuite, il fallait qu'elles effraient les adversaires, comme il l'avait dit au général lors de sa tirade parfaitement improvisée. S'il voulait des résultats, Richard ne devait pas tricher, et s'il ne trichait pas, la route à suivre était toute tracée. Dessiner la danse avec les morts s'imposait. Ce qu'il nommait ainsi avait en réalité la vie pour véritable sujet, bien au-delà de la simple notion de survie. Les runes enseignaient une méthode fiable pour affronter le mal et le vaincre. En ce sens, elles étaient un moyen de protéger la vie, y compris celle du danseur. Mais la démarche elle-même, le combat, était du début à la fin un protocole purement destructeur et négatif. En d'autres termes, la danse avec les morts prenait tout son sens, se distinguant par exemple des atrocités de l'ordre, uniquement lorsqu'on reconnaissait l'existence du mal. Si Richard avait assimilé ce point depuis longtemps, ce n'était pas le cas de tout le monde, loin de là. Beaucoup trop de gens préféraient se voiler la face et vivre dans un monde imaginaire où tout se valait. La danse avec les morts n'autorisait pas de telles dérives. Pour survivre, avoir une claire et honnête vision de la réalité était indispensable. Nul ne pouvait faire l'économie de la vérité ou tricher avec elle et sortir victorieux d'un affrontement contre le mal. Les divers éléments de la danse, ses incarnations successives, recoupaient très exactement ceux de toutes les formes de combat, qu'il s'agisse d'une joute verbale, d'un jeu ou d'un duel à mort. Représentés dans le langage visuel des emblèmes, ces éléments se sublimaient pour devenir les médiateurs incontournables de la survie. Pour les utiliser et en tirer profit, il fallait absolument avoir une vision lucide du monde, parce que le but ultime de la danse avec les morts était la conquête de la vie. Comme par hasard, le nom Jaladijin se traduisait par « jeu de la vie ». Tous les objets appartenant à un sorcier de guerre jouaient un rôle très précis dans la danse. Et le sorcier lui-même, si paradoxal que cela puisse paraître, était avant tout un défenseur de la vie. Comme les runes brodées sur ses vêtements, les symboles figurant sur l'amulette de Richard étaient en fait un diagramme qui représentait le noyau même de la danse. L'image emblématique d'une série de mouvements que Richard connaissait à la perfection parce qu'il les reproduisait chaque fois qu'il combattait avec l'épée de vérité. Même s'il ne détenait plus l'arme, Richard gardait en mémoire toutes les connaissances qu'il avait acquises en la maniant. Ainsi que Zed le lui avait rappelé très souvent au début de sa carrière de sourcier, l'épée n'était qu'un outil. Seul l'esprit de l'homme qui la brandissait faisait la différence. Depuis que son grand-père lui avait remis l'arme, Richard s'était familiarisé avec le langage des emblèmes. Connaissant les symboles liés à un sorcier de guerre, il comprenait sans difficulté leur sens et avait même l'impression d'entretenir avec eux une sorte de dialogue. Utilisant son index, Richard entreprit de dessiner sur le visage de Léo les principaux emblèmes de la danse avec les morts. Chaque élément avait une signification bien précise en matière de technique de combat. Frapper de taille, esquiver, se fendre, feinter, porter le coup de grâce tout en s'occupant déjà du prochain adversaire. Rien qui ne puisse s'appliquer au Jala sur un mode moins définitif, et encore pas toujours. Sur la joue droite de Léo, Richard dessina une série d'emblèmes qui exhortaient le guerrier à élargir son champ de vision afin qu'un détail ne l'empêche jamais de voir l'essentiel. En plus des composants de la danse, Richard se surprit à dessiner des fragments de sortilèges qu'il avait vus par le passé. Au début, il s'était demandé quelle mouche le piquait, puis la mémoire lui était revenue. Ces fragments correspondaient aux sorts tracés par Darkenral dans du sable de sorcier au cœur du jardin de la vie. Le jour où le tyran avait invoqué le pouvoir requis pour ouvrir une boîte d'ordaines. L'étrange silhouette fantomatique qui lui était apparue la nuit précédente avait laissé une profonde empreinte dans son esprit. Selon ce spectre, il avait été désigné comme le joueur, et à partir du premier jour de l'hiver, il lui restait un an pour ouvrir la bonne boîte. Après cette étrange rencontre, et bien qu'il fût épuisé, Richard n'était pas parvenu à trouver le sommeil, mais la douleur due à ses deux blessures l'avait empêché de raisonner sereinement. Puis, il y avait eu l'inspection de Jagang et l'urgence absolue de dissimuler ses traits pour ne pas être reconnu. Avec tout ça, le sourcier n'avait pas eu le temps de se demander comment il pouvait bien être le joueur vis-à-vis des boîtes d'ordaines. Puisqu'il n'avait rien fait pour ça, il s'agissait peut-être bien d'une erreur, une aberration magique provoquée par la contamination des carillons. Car même s'il avait eu les connaissances exigées pour se frotter à la magie d'ordaines, ce qui n'était pas le cas, Sis, la voyante, l'avait coupé de son pouvoir. Du coup, comment aurait-il été capable, même par inadvertance, de remettre dans le jeu les boîtes d'ordaines? Et sans son don, comment choisirait-il la bonne boîte dans un an, jour pour jour? Si c'était-elle la source de toute cette histoire? La maîtresse d'œuvre d'une machination qui le dépassait? À l'époque où Darkenral avait dessiné les sortilèges, juste avant d'ouvrir la mauvaise boîte, Richard n'avait absolument rien compris aux runes tracées dans le sable de sorcier. Selon Zed, reproduire de tels sortilèges était terriblement dangereux. Une seule minuscule erreur, même si le joueur était totalement légitime, risquait d'entraîner une catastrophe. Ce jour-là, les motifs dessinés par Darkenral n'avaient rien évoqué chez Richard. Depuis, bien des choses avaient changé. Un peu moins ignare en magie et très pointu en matière d'emblèmes, il avait commencé à percer à jour certains éléments fidèlement gravés dans sa mémoire. Comme pour le Haut-Daran, une langue presque morte qu'il était un des rares à comprendre, l'instinct jouait un rôle essentiel dans l'acquisition de ses connaissances. Une fois qu'il avait compris le sens d'un mot ou d'un emblème, le lien se faisait tout seul dans sa tête et il pouvait passer à la phrase complète ou au sort dans son intégralité. Dans le même ordre d'idées, il s'était aperçu qu'une partie des emblèmes tracés par Darkenral afin d'ouvrir la boîte d'ordaines se retrouvait dans le diagramme de la danse. Au fond, c'était logique. Le pouvoir d'Orden, lui avait un jour confié Zed, était celui de la vie, ni plus ni moins. L'objectif de la danse consistait à préserver la vie, et la magie d'Orden, ultime rempart contre la chaîne de flammes, remplissait très exactement le même office. Trempant de nouveau son doigt dans la peinture, Richard dessina sur le front de Léo une ligne courbe qui l'entoura de lignes droites, créant ainsi un symbole qui permettait de focaliser la force. S'il utilisait des symboles familiers, Richard les combinait d'une manière inédite afin d'éviter qu'une sœur de l'obscurité reconnaisse les peintures de guerre pour ce qu'elles étaient. En conséquence, les formes qu'il créait étaient à la fois ancrées dans une tradition et radicalement nouvelles. Les joueurs réunis autour de leur marqueur semblaient fascinés. Dotés d'une poésie brute, ces figures géométriques dépassaient largement leur entendement, mais ça n'avait aucune importance car l'essentiel était ailleurs. Les peintures de guerre, en sus de leur beauté sauvage, faisaient exactement l'effet recherché. Elles étaient terrifiantes.
« Tu sais ce que tes dessins me rappellent, Ruben ?»
demanda un des hommes.
« Non, quoi ?»
Tout en tendant l'oreille, Richard ajouta une rune spécifique, illustrant un coup visant à priver un adversaire de toute sa force.
« Le Jala lui-même, et la façon d'y jouer. Je ne saurais dire pourquoi, mais tes figures géométriques me font penser à certains schémas d'attaque sur un terrain. »
Surpris que ce joueur, un prisonnier comme lui, se montre si perceptif, Richard l'interrogea du regard.
« Quand j'étais maréchal ferrant, il me fallait comprendre les chevaux avant de ferrer leurs sabots. On ne peut pas demander à un cheval s'il se sent bien, mais avec un peu d'attention, on réussit à capter certains détails de comportement. Avec l'expérience, on apprend à interpréter le langage corporel des équidés. Ça aide à anticiper les morsures et les ruades.
« Tu es sur la bonne piste, »
dit Richard.
« Je veux vous fournir une image de la puissance brute et vous permettre de la refléter. »«
Et où as-tu appris à dessiner des symboles d'arcane ?»
demanda un autre joueur nommé Bruce. Lui, c'était un soldat de l'ordre, un des membres de l'équipe qui dormait sous une tente et s'agaçait de devoir obéir à un marqueur qu'on enchaînait la nuit comme un animal, une sorte de mécréant attardé pour exprimer les choses autrement.
« Les gens comme toi font toute une affaire de la magie, cette vieille lune, et ils oublient de se consacrer à la gloire du Créateur et à leur responsabilité envers les autres. »
Richard haussa les épaules.
« Tu vas chercher trop loin, Bruce. Il s'agit de ma vision de la puissance, rien de plus. J'essaie de nous faire paraître plus forts et plus terrifiants. »
Bruce ne parut pas satisfait par la réponse.
« Et en le barbouillant comme ça, »
dit-il en désignant Léo,
« tu crois créer l'image d'un surhomme ?»«
J'aimerais bien, en tout cas, »
éluda Richard, désireux de mettre fin à l'interrogatoire de Bruce sans rien lui révéler d'important.
« C'est l'impression que ça me donne. »« Une absurdité. Des dessins n'ont jamais suffi à changer la réalité. »
Certains équipiers, des soldats de l'ordre comme Bruce, dévisageaient Richard comme s'ils envisageaient une rébellion contre leur attaquant de pointe.
« Si tu es certain de ce que tu dis, mon ami, »
contre-attaqua le sourcier,
« me permettras-tu de te dessiner une jolie fleur sur le front ?»
Tous les joueurs éclatèrent de rire, y compris les membres de l'ordre.
Dérouté, Bruce regarda autour de lui, esquissa un sourire un peu niais, puis se racla la gorge.
« Eh bien, si tu présentes les choses comme ça, je vois un peu mieux ce que tu veux dire. »
Il se tapa du poing sur la poitrine.
« J'entends terroriser les autres équipes. »«
Et tu y parviendras si tu m'écoutes. »« Avant la première rencontre, nos adversaires se moqueront sûrement de nos peintures de guerre. »« Nous devons tous nous y préparer. »« Quand les rires fuseront, qu'ils servent de combustible à notre colère. »« Oui, qu'ils nous donnent envie de les renfoncer dans la gorge des rieurs. »« Quand nous entrerons sur le terrain, des insultes voleront. »« Et je crains que les spectateurs se mettent aussi de la partie. »
Il ne faudra pas broncher.
Être sous-estimé par un adversaire est la meilleure chose qui puisse arriver à un guerrier ou un sportif. Qu'ils nous insultent, ces idiots, et attisent ainsi la haine qui brûle déjà dans notre cœur.
Richard dévisagea tour à tour chacun de ses coéquipiers.
N'oubliez jamais que nous ne sommes pas là pour gagner l'admiration de nos adversaires. Nous voulons vaincre et avoir une chance d'affronter l'équipe de Jagang. Nous méritons cet honneur, parce que nous sommes les seuls à en être dignes. Les hommes qui se moqueront de nous sont des joueurs de seconde zone. Il faut nous en débarrasser pour atteindre notre objectif, voilà tout. La première équipe que nous rencontrerons sera l'obstacle numéro un qui se dresse sur notre chemin. N'allez rien chercher de plus compliqué. En entrant sur le terrain, laissez les Lazzi stimuler votre rage, mais ne trahissez aucune réaction. Ils vous croient passifs si ça leur chante. Dès le début de la partie, montrez votre véritable force. Nous viserons chaque fois une victoire écrasante, comme si l'armée de Jagang était en face. Pas question, par exemple, de gagner la première partie avec un point ou deux d'avance, comme ça se passe le plus souvent. Ce n'est pas assez pour nous. Les victoires rabougries, nous les laissons aux autres. Il faudra écraser les crétins de rieurs, les gars. Leur mettre au moins 10 points dans la vue.
Les joueurs en restèrent bouche bée. Les écarts de ce genre étaient réservés aux mascarades entre gamins. À ce niveau de jeu, 4 ou 5 points de différence étaient déjà un événement à graver dans le marbre.
Chaque membre d'une équipe battue reçoit le fouet, vous le savez très bien. 1 coup par point d'écart.
Je veux que le calvaire de la première équipe que nous vaincrons soit le sujet de toutes les conversations demain.
Après ça, plus personne ne rira. Au contraire, nos futurs adversaires crèveront de peur.
Quand un joueur est angoissé, il commet des fautes. Et bien entendu, nous serons là pour tirer parti de toutes les bévues.
La deuxième équipe aura sué de peur et la déculottée qu'elle recevra justifiera ses angoisses, car celle-ci, nous la vaincrons avec 12 points d'avance. Vous imaginez la terreur de la troisième ?
Richard braqua son index couronné de rouge sur ses équipiers membres de l'ordre.
Vous savez à quel point cette stratégie est efficace.
N'avez-vous pas rasé toutes les villes qui vous résistaient afin de miner le moral des suivantes ? Votre réputation seule a fini par décourager les défenseurs. Combien se sont rendus sans combattre ?
Les Soudards sourirent, ravis que Richard ait recours à des références qu'ils pouvaient comprendre.
Les autres équipes auront peur des démons peints en rouge, je vous le promets. Et à partir de là, nous enchaînerons les triomphes.
Les joueurs se tapèrent du poing sur le cœur. Même si c'était pour des raisons différentes, ils désiraient tous la victoire. Mais aucun n'avait de motif comparable à celui du sourcier. Il espérait ne pas jouer contre l'équipe de Jagang, mais il irait jusque-là si ça s'imposait. S'il n'avait pas sa chance avant, une probabilité hélas élevée, tout se jouerait lors de la finale du tournoi. Et là, les circonstances lui seraient favorables, c'était couru d'avance.
Richard acheva son œuvre en ajoutant sur les bras du roc quelques runes qui symbolisaient la force maximale qu'on devait imprimer à une attaque mortelle.
« Ruben, je peux passer derrière Léo ?»
demanda un des joueurs.
« Et moi ensuite ?»
lança un autre.
« Pas de bousculade, les gars, » dit Richard. « Pendant la séance de peinture, nous allons réviser notre stratégie. Chaque homme doit savoir comment nous entendons jouer et connaître parfaitement les signaux. Le but est de submerger nos adversaires dès la première seconde, leur couper le souffle alors qu'ils sont encore en train de rire. »
Les uns après les autres, les joueurs se prêtèrent au rituel institué par Richard. Chaque fois, il se concentra comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Et en un sens, c'était le cas. Stimulés par la harangue de leur marqueur, un discours sobre mais enthousiaste, les joueurs regardèrent leur attaquant de pointe dessiner ce qu'ils ignoraient être des fragments de sortilèges dévastateurs. Mais si la magie les dépassait, ils sentaient la détermination de Ruben et voyaient le visage de leur camarade se transformer en masque terrifiant. À mesure qu'il avançait, Richard s'avisa que ces hommes étaient en train de devenir la vivante incarnation de la danse avec les morts, avec, pour faire bonne mesure, une pincée de magie ordénique. Il ne restait plus que quelques emblèmes inutilisés, ceux qu'il se réservait. Les représentations de plaies terribles, impossibles à guérir, celles qu'un combattant infligeait à l'âme de ses adversaires. Un des joueurs-soldats tendit à Richard un miroir en métal poli afin qu'il puisse se regarder tandis qu'il s'appliquait les peintures de guerre. Le sourcier plongea son index dans la peinture en imaginant qu'il s'agissait de sang. Les joueurs l'observèrent, fascinés. Cet homme était leur chef, celui qui les guidait sur un terrain de Jala. Découvrir son nouveau visage n'était pas une affaire à prendre à la légère. En guise d'ultime touche, Richard ajouta l'éclair qui symbolisait le Kundar, autrement dit la rage du sang des inquisitrices. Quand elle l'avait cru mort des mains de Darkenral, Kallan avait invoqué cette force dévastatrice pour le venger. Penser à Kallan, privé de sa mémoire et de son identité, multiplia par 10 la rage du sorcier. Et lorsqu'il songea que sa femme était entre les griffes de Jagang, qui osait lui laisser des marques sur les joues, sa fureur atteignit des sommets qu'il n'aurait pas cru possibles. La rage du sang. Oui, c'était exactement ça.